Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Aujourd'hui, le rendez-vous tech se vautre dans le buzz, dans le clickbait, peut-être, mais enfin quand même, c'est justifié puisque c'est des informations importantes. On va parler des sujets buzz de la tech du moment, gig economy, NFT, AR/VR, tout ça et plus tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. On regarde toutes les news, on analyse tout ce qui se passe et on vous le résume de manière simple et compréhensible pour votre, j'espère, peut-être pas plus grand plaisir, mais en tout cas pour votre plaisir. Pendant que vous êtes dans les transports ou en train de faire le ménage, et ben on vous fait gagner du temps en vous distrayant pendant ces tâches qui ne sont pas forcément hyper sympathiques. Et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Ceux qui, j'espère, passeront un excellent moment en notre compagnie, ce sont Alan, Claude Louis, Aurélien Dimeo, Hervé Bertrand, Yves 10, Guillaume Hamelin, Rome 34, Fort Eric, Fadé Vibre, Nicolas Ecker et les producteurs Stéphane Nuret et Stéphane Grégory Sata. Merci à vous tous qui soutenez l'émission. Et oui, vous l'avez compris, ce sont ceux qui soutiennent le rendez-vous tech financièrement sur patreon.com/rdvtech. Et on les aime d'amour. On leur envoie des bisous comme ça, comme on envoie des bisous à la chatroom du live qui nous regarde à midi le mardi. Et ça, c'est un vrai plaisir pour nous, puisqu'on peut interagir comme ça. C'est un vrai bon moment. Mais un encore meilleur moment, c'est celui où j'accueille dans l'émission Cédric Ingrand, comme tous les mois. Comment vas-tu, Cédric? Est-ce que tu es en forme?
Formidable. Tu aurais pu commencer par la fille quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est mes vieux réflexes de mal. Un soupçon de politesse quand même.
Je commence avec les gens un petit peu communs, tu vois, ceux qu'on a l'habitude de voir pour lesquels on n'a plus trop de. Tu vois, c'est pas la surprise.
C'est Cédric. Putain, encore lui. Bon, finalement, j'ai peut-être allé faire une lessive, tu vois, tout ça. Oui, bien sûr. Commence avec le petit personnel, tu as raison.
Et ensuite, on a le hook. La surprise qui ramène tout le monde dans l'émission, c'est toujours un honneur de la recevoir dans le rendez-vous jeu et c'est toujours un privilège de la recevoir dans le rendez-vous tech. Elle vient quand elle a un petit peu de temps, c'est Chloé Wattier. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, Chloé.
Tu vois quand tu veux.
Écoute, c'est mon premier rendez-vous tech là, donc je suis ravie.
C'est vrai ? Non, t'es déjà venu dans le rendez-vous tech. C'est pas possible.
Non, je crois pas. J'ai fait le rendez-vous jeu plusieurs fois, mais peut-être pas encore.
Peut-être. Écoute, alors, c'est un honneur décuplé pour nous que tu nous prêtes ton expertise. Et notamment, on va parler alors de plusieurs choses, comme je le disais, de la gig économie. Gig. La gig économie, c'est autre chose. Gig économie, de l'EA, réalité virtuelle et réalité augmentée un petit peu aussi. Et puis de NFT, on y viendra tout à l'heure. Et je vous préviens, il y a des gens qui ne sont pas contents quand on parle de NFT. Là, c'est même plus parce qu'ils n'y croient pas, mais parce qu'ils en ont marre. Mais que voulez-vous, je ne fais pas l'actu, moi. Je ne décide pas de ce qui va dans l'actu. Certains me disaient, mais il faudrait parler des failles qui sont tellement importantes, qu'elles changent plein de trucs.
Ah, c'est vrai quand même.
Oui, mais si tu veux, c'est pas... Enfin bon, j'aurais pu, mais on fait référence à Log4j, qui est intéressant parce que c'était un projet qui affectait plein de gens et qui était maintenu par très peu de monde, c'était un truc open source. Mais bon, écoutez, on en parlera peut-être un autre jour. Pour le moment, on va commencer avec la gig economy. Juste avant ça, je voudrais rappeler aux joueurs parmi vous, aux joueurs de jeux vidéo, si vous jouez aux jeux vidéo, eh bien je vous encourage à aller participer au GOTY, au vote du GOTY du rendez-vous jeu. Le rendez-vous jeu, on va établir nos jeux de l'année là à la fin de la semaine, ça sera diffusé un peu plus tard. Mais donc votez très très vite, j'ai le lien dans les notes de l'émission, on va le mettre dans les notes de l'émission. Si vous aimez les jeux vidéo, il ne faut pas oublier d'aller voter. Et donc, la gig economy, beaucoup plus important encore que le rendez-vous jeu. Vous savez, la gig economy, c'est toute l'économie des petits boulots, entre guillemets. L'économie avec Uber, Deliveroo, enfin tous ces trucs-là où on peut aller sur une app et puis décider bah, « maintenant, j'ai envie de travailler un petit peu » et donc on va pouvoir choper quelques boulots et travailler le temps qu'on veut, la quantité qu'on veut, et puis après s'arrêter, travailler pour l'un, travailler pour l'autre, etc. Enfin, ça, c'est la théorie. Parce que dans la pratique, on sait bien que cette économie est beaucoup moins reluisante, et on a la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine qui sont des travailleurs, on va dire, assidus, qui travaillent beaucoup, souvent pour assez peu d'argent, et donc ça pose d'immenses problèmes aux pays dans lesquels, enfin, notamment à l'Union européenne, dans les différents pays de l'Union européenne, le cœur du problème étant, est-ce que les plateformes sont des employeurs classiques ou est-ce qu'elles sont simplement des plateformes qui permettent à des travailleurs indépendants de trouver des contrats, on va dire. Et on est vraiment dans une forme un petit peu entre les deux. Il y a une proposition de loi, je crois que c'est comme ça qu'on peut la qualifier, c'est un draft dans l'Union européenne, qui propose quelque chose d'intéressant dont vous avez peut-être entendu parler, mais qu'il est facile de mal comprendre. C'est une proposition qui pousserait, enfin qui obligerait les sociétés et les plateformes comme Uber ou Deliveroo au hasard à employer les gens qui travaillent sur leur plateforme comme des employés normaux, comme des employés classiques en CDI, de la même manière qu'on peut avoir un CDI ailleurs. Et je pense qu'il est facile de lire un gros titre, de s'arrêter là et de se dire « Oh là là, l'UE va obliger les Uber à employer tous ces chauffeurs. » En fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. On parle bien de ce type de plateforme et de ce type de travail, mais on ne parle pas de toutes les personnes qui sont dans ce cadre. En fait, c'est pour certaines sociétés qui ont des conditions d'utilisation et travail très particulières, qui obligent, par exemple, les personnes qui travaillent avec leur plateforme à ne pas travailler chez un concurrent ou à travailler à des horaires spécifiques. Ce genre de choses. Et c'est vrai que quand on en parlait par le passé de ces plateformes et des problèmes liés aux plateformes, moi je dis souvent c'est un statut qui ne correspond pas vraiment au statut d'employé, qui n'est pas non plus un statut d'indépendant, parce que ce n'est pas un statut d'employé, parce que bah, on peut aller travailler chez un concurrent, on peut décider quand on travaille, on peut s'arrêter demain, etc. Un statut d'employé a d'autres obligations. Et je suis surpris d'apprendre que certaines de ces plateformes, en fait, rajoutent ces obligations, les obligations qu'on impose à un employé normal en CDI, et les considère tout de même comme des travailleurs indépendants. Eh bien, l'Union européenne va corriger ce problème, semble-t-il. En tout cas, c'est une proposition. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a environ 30 millions de personnes qui travaillent sur ces plateformes et dans l'Union européenne, et les personnes qui seraient touchés par cette proposition, ce n'est pas la totalité, c'est entre guillemets seulement 5,5 millions de personnes qui ne sont pas en fait indépendantes, mais bien employées par les plateformes et qualifiées comme indépendants. Ça me semble être une... J'imagine que c'est difficile de considérer que c'est une mauvaise chose, cette proposition. Je t'entendais acquiescer, Chloé.
Ouais, bah en fait, cette proposition est super intéressante parce que je pense qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux quand on marche dans la rue, quand on croise tous les livreurs de Deliveroo, de Uber Eats, etc. Je pense qu'on a tous vu un peu l'évolution également de leurs conditions de travail, qu'aujourd'hui, c'est quand même des gens qui travaillent extrêmement dur, qui travaillent pour pas grand-chose, pour un peu des clopinettes, qui sont très nombreux à pédaler ou voire de moins en moins maintenant à prendre des scooters pour sous la pluie, sous la neige, sous les tempêtes, sous le vent, parce qu'on a la flemme de sortir faire des courses. Et en fait, ce que dit Bruxelles, c'est que la promesse que tu as très bien expliquée au début de ces plateformes, qui était genre la liberté, voilà, tu as envie de travailler quelques heures, c'est super. C'était un peu la promesse du début, hein, je me souviens. C'était surtout des étudiants qui travaillaient quelques heures le dimanche pour se faire un peu d'argent de poche parce que la rémunération était plutôt bonne. Aujourd'hui, en fait, on va dire un peu que l'employeur de ces personnes-là, non seulement ce sont ces plateformes, mais surtout ce sont les algorithmes qui sont derrière ces plateformes. C'est ce qu'on appelle le management algorithmique. Donc là, par exemple, dans les critères que met Bruxelles, il y a le fait que la plateforme fixe les niveaux de rémunération. Ils disent, voilà, pour telle course, ce sera, tu gagneras tant parce que tu as fait telle distance, mais attention, si tu réussis à faire la course dans un temps réduit, genre en moins de 10 minutes, tu auras un petit bonus. Si tu as réussi à faire plusieurs courses dans la même nuit, pareil, tu auras un bonus. On pourra te dire, puis il faut également porter l'uniforme de l'entreprise. Certaines interdisent de travailler pour d'autres, mais en gros, en fait, ces personnes-là, en fait, c'est leur téléphone qui leur donne des ordres pour dire, voilà, il faut que tu ailles à tel endroit, il faut que tu ailles faire telle course, il faut que tu ailles faire telle livraison. Et attention, si tu ne réduis pas toutes ces conditions, bah, soit tu seras très mal payé, soit tu auras soit tu vas échapper à plein de bonus. Mmh. Et la logique de l'Union européenne, c'est de se dire, bah, en fait, quand on arrive à ce niveau-là, on ne peut pas dire que les gens sont totalement indépendants. Ce n'est pas juste une plateforme neutre qui va dire, tu as une mission, une mise en relation, en fait, entre quelqu'un qui a besoin d'un service, c'est-à-dire nous dans notre appartement, et une personne qui peut se charger d'aller chercher notre repas et le livrer chez nous. C'est beaucoup plus contraignant et directif que ça. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a ce niveau de critères, donc après, qui fait que ben, si tu remplis 2 des 5 critères mis en avant par Bruxelles, l'auto-entrepreneur peut dire, ben, en fait, non, je suis un salarié. Et donc, en tant que salarié, ça veut dire qu'il faut que j'ai un salaire minimum, un temps de travail déterminé, un contrat, des indemnités maladie, des normes de sécurité, par exemple que Deliveroo ou Uber Eats me fournissent un vélo en état de marche, un casque, des protections, mon sac, que je sois couvert en cas d'accident. Enfin voilà, plein de choses en fait, toutes les protections dont bénéficient les salariés.
C'est très intéressant, en effet. Pardon, Cédric, tu voulais ajouter
quelque chose ? Non, tout va bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à ce qui est un des fondements du droit français en la matière. Parce que chez nous, ce qui caractérise le contrat de travail, en fait, c'est ce qu'on appelle le lien de subordination.
Exactement.
Et en gros, ce que l'Union européenne essaie de faire dans cette directive, c'est de préciser c'est quoi les contours, qu'est-ce qui caractérise le lien de subordination. Alors, il suffirait qu'ils viennent lire l'abondante jurisprudence des tribunaux des prud'hommes chez nous, mais on y retrouve des choses. Mais c'est vrai que c'est aussi adapté à des entreprises où tu peux finalement te mettre à travailler sans avoir jamais rencontré qui que ce soit, où tu peux être viré sans que personne t'appelle. Enfin, tu vois. Donc, de fait, il y a des ajustements à faire. Mais tu as eu raison de préciser dès le début qu'en fait, c'est pas quelque chose qui va concerner tous les gens qui travaillent pour ces plateformes, mais le sous-ensemble de ceux qu'on pourrait réellement considérer comme étant un peu pieds et poings liés face à elles. C'est-à-dire, avec ce détail-là, c'est d'ailleurs comme ça que les plateformes s'en sortaient jusque-là. C'était de dire, non, mais attendez, on peut pas avoir un CDI chez moi. C'est-à-dire que le chauffeur Uber, par exemple, il peut parfaitement travailler pour 2 autres plateformes en même temps, voire même avoir les 3 smartphones allumés en même temps sur les 3 plateformes et choisir à la demande ce qu'il va faire comme course chez l'une ou chez l'autre. Donc, c'est difficile là de caractériser le lien de subordination du contrat de travail à la française, en tout cas.
Oui. Et puis décider de travailler un jour sur deux ou théoriquement, ouais. Bien sûr, il y en a plein qui le font pas, mais oui, il y avait toutes ces
conditions. C'est compliqué parce que Chloé le disait, c'est des choses qui relèvent parfois pas de l'obligation, mais on va dire de l'incentive ouais. très appuyé.
C'est le type avec l'accent italien qui vient de voir à New York, mais ça serait quand même mieux que tu travailles un petit peu plus, sinon qui peut arriver à ta famille. Je ne sais pas si je fais de l'accent italien.
Un accident est si vite arrivé quand Dominique et Tatalia viennent frapper à ta porte. Mais tout à fait. Mais quand j'ai vu un peu un jour, j'ai voulu tester le truc. Par exemple, chauffeur Uber, il y avait des incentives pour non seulement travailler pas mal d'heures, mais aussi X jours de suite, arriver à X courses dans un temps X, dans un temps Y,
c'est
etc.
C'est comme les jeux mobiles.
Ouais, mais
on voit les joueurs de jeux vidéo. C'est, les bonus de connexion quotidien, tu sais, si tu te connectes 7 jours de suite, t'as une orbe lumineuse en plus dans ton jeu.
Ouais. Sinon là, comme disait Chloé, ton orbe, ça peut être aller livrer des pizzas sous la grêle, en vélo.
C'est ça.
Mais la question aussi, et c'est là que ça va être difficile de mettre le curseur, qu'est-ce qui relève du j'ai envie de dire, du bonus de participation, et qu'est-ce qui relève finalement de la normalité? Parce que si le seul moyen de gagner un salaire normal, c'est de travailler 5 jours sur 7, 8 heures par jour, exactement, là, oui, de fait, on retombe dans les conditions d'un contrat de travail, mmh, de ce qui devrait être un contrat de travail normal.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que bon, dans pas mal de pays de l'Union, il y a déjà eu des décisions de justice pour requalifier notamment des chauffeurs Uber en tant que salariés. Et en fait, la France prend une direction un peu différente. Nous, en fait, le gouvernement défend plutôt des négociations entre les travailleurs de ces plateformes et les plateformes en elles-mêmes. Donc, en gros, mettre en place une sorte d'élection de représentants des travailleurs qui vont négocier directement avec les plateformes pour avoir certains avantages ou certains aménagements, mais pas du tout aller sur le salariat. Ça, c'est une option qui est rejetée par le gouvernement français. Donc, c'est intéressant de voir que côté Bruxelles, on pousse plutôt pour que ce soit du salariat. Donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce que cette proposition va évoluer au fil du temps, parce que je vous rappelle, hein, quand la commission propose, elle ne fait que proposer. Ouais. Ensuite, derrière, il faut que les États membres soient d'accord, et aussi il faut que le Parlement soit d'accord. C'est des discussions très longues qui peuvent prendre des années, qui peuvent ne pas aboutir ou qui peuvent aboutir à une chose très différente de ce qui a été décidé au départ. Donc, à voir, notamment là, vu que la France prend la présidence de l'Union européenne au mois de janvier pour 6 mois, voilà, est-ce que la France va pousser ce texte ou au contraire va plutôt le mettre dans un petit tiroir en attendant, en attendant que ce soit le pays suivant qui prenne les rênes, on verra.
Tu fais bien de le préciser, je disais c'était une proposition, tout à l'heure je disais une je ne sais plus comment je l'ai qualifié, mais effectivement on est très loin d'une loi votée et applicable.
C'est une directive, oui.
C'est vraiment, voilà. Et
je rappelle, il y a des directives européennes qui attendent encore depuis bien bien longtemps leur application en France, par exemple. Il faut que la loi passe, voire que des décrets d'application arrivent.
Une fois qu'elle est votée au niveau de l'Union européenne, elle doit être adaptée dans les différents pays, etc. Mais
exactement.
C'est extrêmement long.
Ouais. Mais donc, je rappelle tout de même, on l'a fait à une ou deux reprises, mais cette directive ne concerne qu'une minorité, 5 millions sur 30, et ça risque de passer à plus de 40 d'ici quelques années seulement, mais 5 millions de travailleurs, donc ça ne couvre pas tous les employés de cette gig, enfin les travailleurs de cette gig économie. Donc peut-être aussi qu'il n'est pas, bien sûr, mais il n'est pas impossible aussi que l'approche, enfin les deux approches puissent être faites en parallèle. C'est-à-dire que ceux qui sont clairement dans des conditions qui relèvent de la subordination et donc du salariat, eh ben ils seront qualifiés comme salariés tout court. Et puis les autres qui n'en relèvent pas forcément, parce que c'est une chose dont on a parlé, mais il y a aussi des conditions qui font que c'est effectivement pas forcément exactement assimilable à du salariat, et bien eux, il faut aussi faire quelque chose pour eux, et peut-être que ces négociations pourraient donner quelque chose, je sais pas, mais ce que je note aussi, c'est une chose intéressante, il y a une enquête hyper intéressante dans Numérama sur les dark stores et les services de livraison en 10 minutes, 10-15 minutes, on va dire, comme Gorillaz et d'autres qui font beaucoup de pub en ce moment en France et à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des autres caractéristiques que vous pouvez aller découvrir sur le papier de Numérama, Gorillaz notamment a pris l'approche CDI directement. C'est-à-dire que tous leurs livreurs sont employés en CDI. Alors après, il y a des questions de conditions de travail, etc. Mais ils sont directement employés en CDI. Et j'ai trouvé cet aspect vraiment intéressant. Bon, ensuite, on est dans une start-up, on ne sait pas où ça ira à terme, mais j'ai trouvé
c'est juste pour empêcher les journalistes d'aller faire « j'ai fait livreur pour Gorillaz pendant 2 semaines ».
Mais c'est ce qu'elle a fait.
T'as pas le droit d'aller signer un autre CDI, donc.
Et puis je pense aussi que ces nouvelles startups voient très bien tous les ennuis légaux que peuvent avoir les Uber, Deliveroo, etc. Et que ouais, c'est aussi une manière de s'en prémunir en disant hop hop hop, et nous regardez, nous on fait des contrats de travail. Donc venez pas trop nous embêter, vous voyez, on est quand même. Alors eux aussi, enfin posent plein d'autres problèmes ce type de startup, notamment bah, vous pouvez peut-être le remarquer si vous habitez dans des grandes villes, bah, en fait, les certaines supérettes qu'il y avait en bas de chez vous bah, sont remplacées par les dark stores de ces de Flink, de chez Gorillaz, etc. Donc, quid, est-ce que dans quelques années, on va se retrouver avec des rues où les commerces ne seront que des dark stores et des dark restaurants dans lesquels vous ne pourrez pas rentrer, mais par contre, il faudra se faire livrer pour pouvoir bénéficier de leurs services. On ne sait pas. Mais,
oui,
mais
je crois que c'est un peu... c'est un peu
J'aime être pessimiste.
Oui, disons que si les gens ne veulent plus aller dans des restaurants, effectivement, ça risque d'arriver, mais je crois que ça me paraît un petit peu extrême comme vision, mais peut-être, qui sait. En tout cas, la vidéo de Horrorgate était très intéressante sur Numérama, donc vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Bah écoutez, un petit instant pour vous poser la question du café. Est-ce que vous savez ce qu'est la question du café ? C'est une question extrêmement intéressante. En fait, je dis vous, mais je ne parle pas forcément à mes co-animateurs, je parle aux auditeurs. Est-ce que vous buvez un ou deux cafés par jour ? Allez, disons que vous en buvez 10 par semaine. Est-ce que si on vous dit, vous pouvez avoir vos 10 cafés par semaine, mais plus de rendez-vous tech ? Paf, c'est fini, plus de Patrick, plus de rendez-vous tech. Là, vous dites... Ah ouais, mais non, mais j'aimerais bien quand même avoir un petit rendez-vous tech pour mon transport le matin, pour me tenir au courant, tout ça. Et là, proposition intéressante. Ok, vous pouvez avoir 9 cafés et le rendez-vous tech, ou 10 cafés sans rendez-vous tech, vous choisissez. 10 cafés, ou alors je dis par semaine, on me dit dans la chatroom, non mais attends, moi c'est plutôt 10 par jour, c'est encore plus, genre, vous pouvez avoir, je dis par semaine parce que c'est un épisode par semaine, genre 50 cafés par semaine, ou 49, et le rendez-vous tech. Et bien là vous dites, si votre réponse est, ah non mais je veux bien abandonner un café pour avoir mon épisode du rendez-vous tech. Si c'est ça votre réponse, et ben là je vous dis, vous savez quoi ? Vous êtes un candidat premium à l'abonnement Patreon pour devenir un soutien du rendez-vous tech, parce que ça coûte, si vous le souhaitez, le prix d'un café par semaine. C'est pas grand-chose. Si vous pouvez vous le permettre, allez faire un petit tour sur patreon.com/rdvtech et en plus, vous aurez des bonus comme les timecodes, l'absence de pub et cette promo au milieu. Si vous la trouvez marrante, vous pouvez quand même écouter le flux public, hein, mais le flux privé ôte cette partie au milieu. Et puis en plus, votre plus grande récompense, c'est la fierté, le plaisir de soutenir le rendez-vous tech. En tout cas, c'est comme ça que j'espère le vivent les auditeurs qui soutiennent l'émission. Un grand merci à vous tous et à vous toutes.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, on continue avec cette histoire de café passé. On va parler maintenant de Apple. Mais alors, juste un tout petit mot. Tout petit mot, parce que il y a eu un truc intéressant qui s'est passé dans le procès qui les oppose à Epic, puisque vous le savez, ils étaient censés, il y a une petite semaine de ça, 5 jours, appliquer le jugement qui disait qu'ils devaient autoriser des liens vers des moyens de paiement externes. Et donc, ne plus forcer les utilisateurs et les développeurs à utiliser leur système de paiement sur lequel ils prélèvent 30%, entre 15 et 30%. Eh bien, Apple a fait appel, évidemment, en demandant une suspension du jugement. Et après un premier rejet, la veille de l'application, ils ont obtenu cette suspension, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'implémenter l'autorisation d'utiliser un système de paiement tiers avant la fin du procès en appel qui pourrait prendre très longtemps. Donc, ils jouent la montre et encore plus que ça, les avocats ont réussi à convaincre le juge. Je vous avoue que j'ai été surpris que le juge ait finalement décidé d'autoriser la suspension parce que ça neutralise complètement la chose. Bon, c'est le but, hein, mais j'ai été un petit peu surpris tout de même. C'est quand même important parce que ça aurait pu initier un mouvement dont il a été difficile de revenir du côté de l'App Store. Là, Apple est tranquille. J'imagine qu'il souffle un petit soupir quand même de soulagement du côté de Cupertino.
Ouais, c'est
en attendant. C'était pas un danger existentiel, hein, mais.
Non, c'était pas existentiel, et puis c'est en attendant peut-être un nouveau jugement sur le fond. Donc c'est. Bon, je pense que cette histoire n'est pas finie.
On est d'accord. Clairement non. Clairement non. Et puis là, bon, voilà, Apple utilise tous les leviers judiciaires à leur disposition pour faire en sorte de ne pas, que cette décision en première instance ne soit pas appliquée. De toute façon, comme tu disais, il y a un appel, ça va prendre du temps, et on sait très bien que cet appel, très probablement, il ira encore plus loin. Il ira certainement après, peut-être qu'ils tenteront Cour suprême. Enfin, je pense que ce dossier, il va durer des années et des années encore. Hein. Donc, on n'a pas fini. Et je ne sais pas si, entre-temps, les conditions de l'App Store évolueront. Mais voilà, c'est. Enfin, moi, je t'avoue, j'ai été très moyennement étonnée quand j'ai vu tomber la news. Je me dis, bon, bah voilà, c'est attendu. Ils ont Apple a quand même les moyens de se payer des avocats. Et ils font tout ce qu'il faut, voilà.
Moi, j'ai été un petit peu surpris parce que la première demande avait été rejetée, assez vivement d'ailleurs. Bon, ils ont bien réamendé leur document, mais j'ai également été un petit peu frustré. Pourtant, généralement, je fais partie des gens qui défendent le modèle Apple. Je trouve que c'est une proposition qui doit exister au milieu d'autres types de propositions, dans l'idéal. Bon, c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais ça serait l'idéal. Mais là, je suis un peu agacé tout de même. Parce que pour moi, je sais que c'est comme ça que fonctionne la justice et qu'il est important qu'on puisse faire appel d'une décision et que c'est quelque chose que je ne remets pas en cause. Mais ça m'a quand même un petit peu frustré parce que le jugement était clair, la chose avait été décidée et le fait que ça soit suspensif, enfin, c'est pas suspensif, mais ils l'ont rendu suspensif avec cette demande. C'est pas que ça sent le bidouillage, ça n'est pas du bidouillage, c'est comme ça que fonctionne la justice, mais ça me frustre. Moi, je pensais, ok, bon, bah voilà, ils ont perdu, il faut le faire, et puis on ouvre un tout petit peu, c'était une petite porte entrouverte sur le paiement dans les App Store, et là, ils réussissent à la refermer, je sais pas, il y a quelque chose de frustrant là-dedans. Mais bon. Puisqu'on parle d'Apple un tout petit peu, je vais glisser vers la réalité virtuelle et la réalité augmentée, puisque au départ, j'avais sous-titré cette partie, j'avais dit « la réalité virtuelle n'est pas morte, la réalité virtuelle bouge encore ». Alors j'exagère un petit peu, parce qu'elle n'est allée nulle part, c'est juste qu'elle n'a pas connu le succès éclatant encore qu'on lui promettait il y a quelques années. Mais là, je ne sais pas si c'est un effet de cette semaine ou si c'est une tendance qui continue à s'accélérer, mais on a eu beaucoup d'informations et de news sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, notamment une confirmation, encore une, de Min-Chi Kuo, que le casque de réalité augmentée d'Apple arriverait dès l'année prochaine, et c'est là que c'est intéressant et qu'on n'en avait pas encore entendu parler, il aurait quatre ensembles de capteurs 3D qui offriraient des commandes, un contrôle gestuel, un contrôle par les mains, qui serait vraiment une traversée d'étape par rapport à ce qu'on a connu dans ce domaine jusqu'à maintenant. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, le contrôle en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, c'est l'un des gros soucis parce que avoir une manette, c'est pas pratique. Mettre le doigt sur le casque avec une partie tactile, c'est vraiment pas pratique non plus. Un contrôle à la main, s'il est vraiment développé, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. On a également, on va revenir à ça si vous voulez, mais on a également Sony qui a présenté un casque de réalité virtuelle haute résolution en 8K, c'est un prototype, mais il est assez impressionnant. Il sera différent de celui sur lequel Sony travaille pour la PlayStation 5. On a Samsung qui entre dans un partenariat avec Microsoft pour développer un projet basé sur le HoloLens pour un lancement en 2024. On a les Snap Spectacles qui ont été annoncés il y a quelques mois, qui sont pas très bonnes. C'est les premières lunettes de réalité augmentée de Snap qui avaient fait des lunettes photo en fait jusque-là, qui sont vraiment pas bonnes, qui chauffent trop, qui n'ont pas beaucoup d'autonomie. Mais c'est là encore une première étape pour une société qui n'a rien à voir avec ça. Et puis, on a deux autres éléments que je voudrais évoquer. D'une part, on parle souvent de l'application de la réalité virtuelle. Eh bien, la MGM, enfin MGM Resorts, qui est MGM Hotel et ce genre de choses, et Casino, ce genre de trucs, va employer la réalité virtuelle pour faire des simulations de sessions d'interaction avec des clients. On parle de casinos, d'hôtels, de ce genre de choses avec des clients qui sont parfois un petit peu imbus de leur personne peut-être. Et donc la MGM va faire des simulations d'interaction aux candidats pour qu'eux se rendent compte si oui ou non ils sont taillés pour ce genre de job. Et ils disent qu'ils ont de gros soucis avec des candidats qui signent et qui deviennent employés et qui au bout de quelques jours, quelques semaines s'en vont parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment pas pour eux ce genre de truc. Donc c'est une utilisation que j'ai trouvée intéressante. Et puis encore un article sur la difficulté de modérer la réalité virtuelle et le fait que Meta, qui veut y aller à fond, n'est pas du tout préparé pour la modération, pour les questions de harcèlement, parce que des exemples tout bêtes, mais quand quelqu'un dit quelque chose dans un espace de réalité virtuelle, quelque chose qui est insultant, ben on a du mal à savoir de qui il s'agissait. Ne serait-ce que ça, pour ensuite envoyer un rapport au service client, ben ça peut être compliqué. Donc ça fait beaucoup de choses, des lunettes de réalité augmentée d'Apple à la MGM et à Meta. Si vous avez des éléments que vous voulez commenter, Cédric, je t'entendais. Non, bah vas-y, Chloé. Chloé d'abord. Non,
Juste un petit point sur MGM. En fait, le fait d'utiliser la réalité virtuelle dans les processus de recrutement, ça n'a rien de nouveau. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé, notamment pour les mises en situation. Quand tu dois gérer une clientèle, voilà, comment est-ce que tu te débrouilles au lieu de faire un jeu de rôle, ce qui arrive assez régulièrement dans les process de recrutement, au lieu de faire un jeu de rôle, bon bah là c'est un jeu de rôle un peu plus 2021. Voilà, t'as juste un casque sur la tête et t'interagis avec des clients virtuels. Donc ça, là-dessus, c'est déjà très utilisé, comme les casques de réalité virtuelle sont très utilisés pour la formation professionnelle, etc. Enfin, c'est tout un pan qu'en fait qu'on ne voit pas nous en tant que consommateurs parce qu'on n'est pas concerné en premier plan. Mais la réalité virtuelle, en fait. Tout son marché surtout est B2B actuellement, c'est parce que c'est la formation, c'est les recrutements, et là en fait dans les casques que tu as cités, t'as un peu tout, t'as aussi bien de quelque chose de très très grand public comme les spectacles de Snapchat, comme des choses très très B2B comme HoloLens, et j'imagine que le casque 8K de Sony est aussi destiné aux professionnels et absolument tout pas au grand public.
Je serais très curieux de le voir, le casque 8K de Sony. Comment tu colles 8K, c'est-à-dire 32 millions de pixels? Ah oui, non, enfin, il faut...
Pour le moment, il y a des fils de partout. Hein. C'est pas un truc...
Oui, mais ça, c'est... Je me souviens, la première fois, j'avais vu une télé 8K au Japon, et en fait, en regardant bien, c'était 4 écrans mis les uns à côté des autres, avec derrière chaque écran un énorme PC, genre, ah oui, d'accord, ok, c'était juste, je sais pas comment ils avaient tourné les images, en revanche. Mais je suis d'accord avec lui, ça se fait énormément en formation, il y a même des auto-formations, tu vois, pour te préparer, par exemple, à prendre la parole sur une scène où tout à coup on te met face à un public virtuel ou dans des trucs, dans la médecine, dans l'ingénierie. Donc ça, c'est pas, le truc d'MGM, c'est intéressant, mais c'est pas exceptionnel. Forcément, le truc d'Apple, on aurait tort pour le coup de pas le prendre au sérieux, même si j'arrive pas à sortir du doute. Mais ça c'est le problème des années et des années et des années d'attente, tu vois, de promesses pas réalisées. C'est-à-dire que ça fait maintenant quoi 30 ans qu'on nous promet que c'est pour demain.
Ouais.
Donc il y a 30 ans évidemment t'avais quand même des barrières techniques de prix, etc., enfin tout ça était hyper compliqué, mais maintenant que la techno, il y a plus, tu vois, c'est plus c'est pas les entreprises qui sont en train de te dire bon en fait on a une vision et on attend que la technologie se mette à l'échelle de... Non, pas du tout, c'est-à-dire que la technologie elle est là, les prix ont baissé, et pourtant regarde Oculus par exemple, on fait des trucs tout à fait chouettes avec, idem sur PlayStation et tout, mais c'est pas encore devenu, par exemple, c'est pas le cadeau de Noël 2021, tu vois, c'est pas c'est le sûr. Truc sur lequel il faut absolument mais que tout le monde se rue.
C'est pour ça que la réalité augmentée est particulièrement intéressante, parce qu'elle a des usages et des applications différentes de la réalité virtuelle. Et si on a... Moi, je crois qu'on est à un niveau technologique qui est suffisant pour en faire des versions un peu jouets, tu vois, en quelque sorte. Et que ça commence à devenir réalisable, mais que ça ne le sera véritablement de manière utile que d'ici quelques années encore. Et puis, il y a l'autre grand problème dont on parle à chaque fois, c'est les usages. Alors là, on a parlé d'usages B2B, mais oui, ce n'est pas des usages grand public encore. À voir si Apple réussit à craquer cette noix, comme on dit en anglais. Mais rien que les manipulations avec les mains, si on réussit vraiment à interagir avec un environnement 3D, avec nos mains captées par des gros capteurs efficaces en 3D, ça peut... Alors, c'est très, très compliqué à établir. Il y a tout un langage d'interface visuelle et gestuelle et tactile à inventer. Mais ça peut résoudre un certain nombre de problèmes aussi, parce qu'interagir avec ces environnements, c'est un des gros challenges, quoi.
Bah, c'est aussi un des gros dossiers sur lequel est Facebook, enfin Meta maintenant, via sa filiale Oculus. En fait, ils l'ont montré en long et en large. Ils sont en train de travailler là-dessus sur comment est-ce que, voilà, en mettant un petit bracelet autour de ta main, on va pouvoir capturer les mouvements de tes doigts, de ta main, pour que tu puisses, en fait, dans le, un peu, on prend toujours l'image de Minority Report, mais pour moi, c'est vraiment la meilleure, comme Tom Cruise qui manipulait ses écrans, qui agrandissait des photos, etc., ouais. Juste en faisant des mouvements de main, et ben voilà, qu'on puisse faire pareil dans le futur avec ta petite paire de lunettes qui ressemblera à des vraies lunettes de vue, et pouf, tu pourras avoir des documents devant toi, tu pourras naviguer sur une carte, regarder des photos, zoomer, prendre des documents, et juste en bougeant tes doigts, ouais. Au lieu d'utiliser soit un écran tactile, soit en utilisant un clavier.
C'est un vrai challenge, cette manipulation en 3D, parce que savoir quand une main est arrivée au niveau de l'objet qu'on est en train de projeter, avoir une fiabilité suffisante dans la saisie avec les doigts ou avec la main de la chose en question, avoir zéro latence, avoir une surimposition qui est suffisamment opaque pour que ça soit pas dérangeant. Enfin, il y a plein de challenges, mais oui, ça reste quelque chose d'intéressant. Et l'arrivée d'Apple est évidemment un truc qu'on surveille tous, parce que traditionnellement, Apple est celui qui a réussi à formaliser de manière convaincante des technologies qui existaient déjà avant. Ils l'ont fait avec les lecteurs MP3, avec la vente de musique en ligne, avec les smartphones, avec les tablettes. Enfin, il y a eu évidemment avec les ordinateurs à interface graphique. Donc, on verra s'ils ont encore leur magic touch, s'ils finissent par annoncer ces lunettes de réalité augmentée l'année prochaine. Et puis, dans notre course effrénée au buzz et à la mode en ce moment, on va encore et toujours parler de NFT. Et je sais que, comme je le disais...
Oh, chouette.
Comme je le disais, je sais qu'il y en a que ça irrite, mais je vous rendrai je vous rendrai pas service en n'en parlant pas, juste parce que ça devient fatigant, parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent, il y a quelque chose qui se passe. Alors peut-être que ça va faire plouf, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe avec cet univers, et ça fait vraiment, je crois que j'ai jamais vu autant d'articles et d'informations sur les cryptos, la blockchain et les NFT. J'ai dans mes notes, généralement j'ai 2 ou 3 articles, maintenant j'en ai 20, et donc on va parler des éléments les plus intéressants. Il y en a 2 qui m'ont sauté à l'esprit, aux yeux, dont un que tu couvres, Chloé, donc c'est parfait. Mais le premier, c'est l'idée de Kickstarter de transitionner vers une plateforme de crowdfunding de financement participatif basée sur la blockchain.
Alors ça, je n'ai rien compris.
Je t'avoue que pour l'essentiel, on n'a pas très bien compris non plus pourquoi est-ce que Kickstarter, qui va très bien, est en train de faire ça. Mais il y a un élément de réponse.
Et je pense avoir une idée.
Ouais. Alors, l'élément de réponse que donne Bloomberg, qui est intéressant, c'est aujourd'hui, les gens qui utilisent Kickstarter sont des artistes, des créateurs. Et un des moyens de monétiser leur travail, surtout à l'ère du numérique, des autoroutes de l'information, eh ben, c'est le fait de vendre des objets, entre guillemets, uniques, par technologie NFT, à leurs fans. Et Kickstarter, son business, c'est de connecter les créateurs et les artistes et les fans. Et donc, il n'est pas si incohérent de se dire que quand on fait une campagne Kickstarter, eh ben peut-être qu'on serait intéressé, quand on est un artiste, qu'on serait intéressé par l'idée de se dire ben on va vendre ou proposer une récompense ou même vendre des choses qui sont des objets numériques uniques. Alors qu'on appelle ça par NFT, NFT ou pas, peu importe, c'est des choses signées, uniques, numérotées, qui sont dans la blockchain et par NFT. Donc ça pourrait être intéressant. Il y a aussi cette acquisition que tu évoquais, Chloé, de alors comment ça se dit, Artefact, c'est ça.
Mais juste avant, sur Kickstarter aussi, une autre hypothèse que j'ai lue qui aussi me paraît intéressante sur pourquoi est-ce qu'ils décident de faire des trucs dans la blockchain, c'est qu'actuellement, toujours dans cet univers des crypto-fans, il y a quelque chose qui s'appelle les DAO.
On en a parlé plusieurs fois. Autonomous Organizations.
Voilà. Et ce sont des groupes de gens qui décident de s'unir, d'unir leur sous-sous pour pouvoir se mettre d'accord sur on va utiliser l'argent qu'on a collecté pour acheter des choses, et généralement des NFT. L'exemple le plus récent, c'était ceux qui ont tenté d'acheter une copie de la Constitution américaine en NFT, ils ont échoué. Et en fait, ce sont des collectes d'argent qui échappent totalement aux plateformes de financement participatif que sont par exemple Kickstarter. Donc ça leur permettrait aussi de pouvoir dire hop, faites pas les choses dans votre coin, nous aussi on peut le faire, regardez, on est moderne. Donc je pense que ça c'est peut-être aussi une des explications, mais j'avoue, ouais, quand j'ai vu tomber le communiqué de presse, j'ai fait hein.
Je pense que c'est plus cohérent.
Il faut arriver au quatrième, au cinquième paragraphe pour comprendre qu'en fait, c'est pas Kickstarter qui va changer, c'est Kickstarter qui va créer une nouvelle société à côté du Kickstarter. Ils prennent des risques assez mesurés en disant bon, on va aller explorer ce truc-là, mais ça restera un side project, quoi.
Le gros titre, c'est quand même qu'ils veulent faire une transition à un moment. Donc, mais bon, on verra, ils verront comment ça se passe. Artifact, oui. Artefact racheté par Nike, qui est Artefact, c'est un studio qui crée et qui gère des NFT. Nike rachète ça. Alors Nike, ils ont l'habitude de vendre des chaussures très chères, édition limitée, machin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais, bien sûr. Bah, justement, je viens tout juste d'écrire un article là-dessus avant de venir dans l'émission. En gros, Artefact, c'est aussi des gens qui vendent des baskets très chères en édition limitée, sauf que ces baskets sont virtuelles. En fait, Artefact, ça a été fondé en 2020 par trois personnes, dont un Français, qui s'appelle Benoît Pagotto, qui avant travaillait pour l'équipe d'e-sport Fnatic, et qui est un peu expert sur tout ce qui est un peu marketing digital, etc. Et en fait, leur truc, c'est de se dire, on va s'associer avec des créateurs, des artistes, donc soit des très connus, soit pas du tout, pour designer des baskets qui seraient soit compliqué de faire en vrai, soit un peu fantaisiste au niveau de leur design. On crée des baskets virtuelles et on les met en vente sous forme de NFT. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir des baskets virtuelles? Ces baskets-là, dont déjà on peut les porter, entre guillemets, avec des filtres de réalité augmentée. Donc, via l'écran de votre smartphone, vous pouvez vous voir avec vos baskets aux pieds. Et aussi, pour le moment, c'est compatible avec quelques rares plateformes type Decentraland ou The Sandbox. Donc, ce sont des jeux en ligne basés sur la blockchain. Mais l'espoir de Artefact, c'est que ça s'ouvre un petit peu dans les années à venir. Et surtout, maintenant qu'ils sont liés avec Nike, peut-être que ça va ouvrir d'autres portes pour leur création. Mais donc en fait, Artefact vend surtout essentiellement, enfin, au début vendait des baskets virtuelles, sachant que certaines baskets étaient vendues avec leur alter ego physique. Tu avais quand même une vraie paire de baskets qui, du coup, en édition ultra limitée. Et Artefact, c'est récemment en fait, est en train d'ouvrir un peu son portefeuille. Donc là, ils viennent tout juste de vendre 20 000 avatars 3D uniques Pareil en NFT, dont une partie a été designée par le designer japonais Murakami. Et en fait, ces avatars, donc il y en a 20 000, ils se sont tous vendus pour l'équivalent de 80 millions de dollars il y a 2 semaines. Donc, ce qui explique aussi pourquoi Nike est intéressé. Et Artefact, en fait, veut continuer sur cette lancée en se disant, bah voilà, on fait des baskets, on fait des avatars, pourquoi pas faire des vêtements, faire plein d'habillements virtuels. Donc, ce qui évidemment peut intéresser une marque comme Nike qui se dit il y a certainement qu'il y a une grosse opportunité de se mettre sur le business des vêtements virtuels, sachant que toutes les grandes marques du luxe s'y sont mises. T'as Dolce & Gabbana qui a vendu récemment des vêtements en NFT, t'as Gucci qui vend des sacs sur Roblox, t'as Balenciaga où tu as Moncler qui vend des vêtements, des doudounes sur Fortnite. Donc, ça participe un peu à ce mouvement où l'industrie de la mode et du luxe se dit, il se passe un truc, de toute manière on peut prendre des risques, on peut y aller, ça ne nous coûte pas grand chose. Donc let's go, investissons dans ces boîtes-là, ou en tout cas mettons le pied dedans et on verra bien ce qui se passe derrière.
C'est vraiment intéressant toute cette mouvance. Dans le même domaine, il y a Ubisoft qui a commencé à lancer des petites expériences. En fait, beaucoup de ces activités dans le domaine des NFT viennent du monde des cryptos ou du monde de la tech et flirtent avec le jeu vidéo. Là, c'est Ubisoft qui commence à expérimenter avec les NFT, mais donc ça vient vraiment du monde du jeu vidéo à la base. On en a parlé dans le rendez-vous jeu. Je vais vous faire un petit résumé rapide de ce que j'ai dit là-dessus. Vous savez que généralement, je suis plutôt ouvert aux idées, aux possibilités, et je crois qu'il est difficile de condamner des choses avant d'en avoir exploré vraiment les possibilités. Surtout que là, franchement, personne ne force personne. Mais sur le truc que tente Ubisoft et les NFT dans les jeux vidéo, j'ai beaucoup. Je ne vais pas prendre de gants. Pour moi, c'est une très très mauvaise idée. Je ne vois pas ce que ça peut apporter aux jeux vidéo eux-mêmes. Et tout ce qu'ils promettent n'a que peu d'intérêt. Ce n'est pas une question de on peut le faire autrement, ou on peut le faire différemment, ou on ne peut pas. Non, ça n'est pas le débat. Mais pour moi, tout ce qu'ils promettent est, je ne vais pas dire dangereux, mais en tout cas, n'a aucun intérêt. Et c'est exploitant. C'est de l'exploitation plutôt que du divertissement, comme le disait Phil Spencer. Ouais. Mais j'ai eu une image qui m'est venue en tête pour essayer d'expliquer pourquoi les NFT pourraient être intéressantes. Et j'aimerais vous la proposer et vous allez me dire ce que vous pensez de cette explication. Enfin, pas de cette explication, mais de cette analogie. Alors, préparez-vous. Hein. Vous êtes prêts ? Attention.
Oui.
OK. Les auditeurs assidus de l'émission savent que je parle parfois du concept des carottes râpées pour parler de la vision du futur. Et je vous laisserai écouter des épisodes précédents pour comprendre en quoi les carottes râpées et ce qu'on en pensait il y a quelques décennies peuvent nous informer sur la manière dont on pense aux technologies futures. Et bien là, je voudrais vous parler du mystère de la cravate. Qu'est-ce que c'est le mystère de la cravate ? Une cravate, c'est quoi ? Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune fonction, ça n'a aucune réalité dans son usage, autre que tout le monde a décidé, peut-être parce qu'à un moment on mettait des écharpes et puis ça s'est rapetissé et puis on ne sait pas, mais tout le monde a décidé que quand on met une cravate, ça indique qu'on est des gens sérieux et qu'on fait quelque chose de sérieux. C'est la seule valeur de la cravate. La cravate, c'est un mythe. D'ailleurs, c'est peut-être le mythe de la cravate, voilà. La cravate, c'est un mythe. Ça n'a aucune réalité et c'est juste une décision que le monde a prise de se dire la cravate, ça veut dire ça et ça vaut ça. Le fait que ça soit physique n'a aucune importance. Et pour moi, il y a un petit peu de ça dans les NFT. Il y a plein de gens qui regardent les NFT et qui disent c'est du numérique et donc c'est du vent, ça n'a aucun intérêt, ça peut se copier, machin. Oui, mais peu importe. Peu importe, on dépense des milliards et des milliards dans l'industrie de la cravate, alors que c'est un morceau de tissu qu'on se met autour de la gorge comme un nœud de corde pour se pendre. Peut-être que l'analogie peut aller plus loin. Mais les NFT, il y a des gens qui décident que tel NFT vaut de l'argent, eh ben, c'est la décision qui prévaut. Et le fait que d'autres se disent « Non, non, moi, je pense que ça vaut rien », bah, peu importe. On parlait du luxe.
Il y a des millions de choses. Ouais, il y a des millions de choses, exactement, que ce soit dans l'art, dans le luxe ou ailleurs, dont le prix n'est que le résultat d'une sorte de consensus. Et encore, ça, c'est l'estimation du prix. Le vrai prix, c'est ce que quelqu'un est vraiment prêt à payer pour quelque chose. Tu vois, si tu dis « mon appartement sur l'île Saint-Louis vaut 3 millions », non, il vaudra 3 millions quand quelqu'un t'aura fait un chèque de 3 millions.
Pourquoi est-ce que sur les NFT, on a autant de réticence? Je veux pas repartir sur tout le débat sur les NFT, mais
non, mais parce que blanchiment d'argent, enfin il y a des trucs non, qui parasitent ça, un peu le. Il y a pas que ça, mais il y en a quand même. Je suis désolé.
Non, mais je pense que tout le débat à NFT en fait est totalement pollué par notamment les questions de blanchiment, par les arnaques. Voilà. Par le fait que ça atteint des prix totalement stratosphériques qui font que c'est totalement inaccessible au commun des mortels, enfin sauf ceux qui ont vraiment investi dès le départ, et ce qui fait qu'il y a un énorme rejet des NFT, plus la question environnementale, etc. Personnellement, en fait, je n'arrive pas à avoir vraiment un avis arrêté et stable sur la question parce que le débat est vraiment polarisé entre les gens extrêmement pour et qui en sont à la limite du flippant et les gens extrêmement contre du fanatisme et les gens extrêmement contre qui aussi sont assez je trouve aussi assez hardcore dans leurs arguments et tu dis bon en fait tout n'est pas forcément à jeter dans les NFT mais c'est vrai que là c'est dur en fait d'essayer de faire la part des choses parce que c'est un débat très compliqué avec des positions très très arrêtées sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Donc c'est compliqué. Après, moi, ce qui me fait dire que peut-être que les NFT, ça peut marcher au-delà de la bulle actuelle, c'est quand je vois que il y a plein de gens qui achètent tous les jours des objets virtuels dans des jeux vidéo, ce qui ne sert strictement à rien.
Ils sont uniquement cosmétiques,
Ils sont uniquement cosmétiques, ça ne sert à rien. C'est de l'argent foutu en l'air et pourtant ça rapporte des millions de dollars par mois.
Des milliards,
Et des milliards par mois à des entreprises comme Fortnite, comme EA, comme Activision, etc. etc. Donc à partir de là, pourquoi est-ce que les NFT ne marcheraient pas? Parce que c'est la même logique, même d'autant que les NFT, il y a le côté on peut revendre derrière. Donc,
C'est un outil, c'est une technologie intéressante, mais c'est vrai que le débat se focalise sur, tu vois, sur des gens qui s'échangent des imagettes avec pas beaucoup de pixels, alors qu'en fait, c'est comme les gens qui disaient, la blockchain c'est nul parce qu'ils pour eux la blockchain c'était Bitcoin et rien d'autre. Alors qu'en fait, on le voit déjà qu'il y a des usages vachement intéressants. Moi, je trouve intéressant que Ubisoft se tente le coup là-dedans. Comme c'est intéressant de voir des maisons d'enchères qui s'y mettent, mais elles, c'est juste parce que évidemment elles ont un peu des dollars
dans les yeux.
Excusez-moi, mais pourquoi ne suis-je pas un intermédiaire dans cette histoire mais il n'empêche que voilà, ça va produire des usages vraiment intéressants. Il est un peu tôt pour jeter le bébé avec l'eau du bain, tu vois ce que je veux dire.
Bon, ça, vous me rassurez un petit peu parce que c'est l'approche que j'ai généralement et on a des réactions tellement volcaniques que parfois je me pose des questions, mais d'accord, bon, on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Donc, ça c'était notre petite partie NFT pour le buzz. Quelques petites news un petit peu plus rapides. Google a annoncé qu'on allait bientôt pouvoir télécharger une version de leur store dédiée aux jeux vidéo sur PC. Une version de leur store mobile, leur store Android. En gros, il va y avoir une version Android Play PC avec des jeux PC. Et il y a différents jeux qui ont déjà été annoncés, dont Wild Rift, qui est ma dernière obsession vidéoludique, un jeu mobile. J'aurais jamais pensé à un MOBA en plus. Je viens d'acheter mon premier Battle Pass de l'histoire. J'ai donné de l'argent. Chloé, tu disais que ça ne sert à rien tout à l'heure. J'ai donné de l'argent pour avoir des cosmétiques. Pour avoir objets cosmétiques. Bon, il y a un petit peu de trucs.
J'achète des NFT.
Exactement. J'achète le sac Balenciaga. Si je pouvais acheter mon sac Balenciaga pour ma luxe support dans Wild Rift, ça serait un achat immédiat.
so you shall. Ça va venir, t'inquiète pas.
Oh, dans le jeu vidéo, c'est un petit peu plus compliqué. Je crois que tout le monde s'y mettra pas. Mais bon, on verra. En tout cas, les jeux Android directement sur Windows, alors c'est différent de l'initiative de Microsoft dans Windows 11 pour intégrer l'Amazon App Store. En fait, je pense que Google s'est dit, les jeux, c'est gros. On a le store qui arrive de toute façon. Autant essayer de choper le truc. Il va y avoir une adaptation du store, enfin de jeux vidéo Android sur Windows directement par Google. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a aussi un test que Twitter fait pour son onglet découverte avec une esthétique un petit peu TikTok. Et c'est marrant parce qu'on voit vraiment l'influence de TikTok qui commence à atteindre celle qu'a eu Snapchat avec les stories, qu'on a retrouvé partout sous tous les formats, même sur Netflix, il y a un format qui ressemble aux stories. Bah là, maintenant, sur Twitter, c'est un test encore, mais il y a un format découverte de tweets et de médias qui ressemble au TikTok avec le For You avec lequel on swipe vers le haut, que je trouve pas mal, c'est assez plaisant. Bon, c'est pas des vidéos, hein, c'est juste les tweets qui sont formatés différemment, mais c'est assez plaisant comme format découverte. Puis l'autre petite news que je voulais évoquer, c'était le fait que WhatsApp commence à tester... Alors, vous voulez des termes buzzy. WhatsApp est en train de tester le portefeuille numérique Novi de Meta.
Ah. Oui, enfin, ça reste dans la famille.
Oui, ça reste dans la famille, c'est ouais. Sûr. Bah, Novi, on n'en entend plus trop parler. C'était, comment il s'appelait, Carpe, avant ou Diem, non, c'était l'autre.
Non, Libra. Diem. Enfin, Diem, oui, qui était, oui, mais oui.
C'est ça.
On se comprend.
Et donc, le Novi, c'est le portefeuille qui va permettre d'échanger des Diem ou je ne sais plus, un truc du genre.
Ça,
bref,
ça.
Cette crypto-monnaie de Meta n'est pas morte. Donc, bon, peut-être qu'elle va arriver un jour. Mais bon, ça fait quelques petites news. Si vous avez des choses à ajouter, c'est le moment avant qu'on parle de sécurité.
Non, non, parlons de la suite, c'est vachement intéressant.
Alors, Tor, on ne va pas parler de, comment il s'appelle, Log J4, on va parler de Tor, le réseau Tor, qui est ce réseau qui est, on va dire, qu'on peut mettre par-dessus Internet ou le web pour naviguer en sécurité parce qu'on passe par différents serveurs qui vont chacun camoufler notre identité. Et c'est cette... normalement, pour atteindre un site web, quand on passe par le réseau Tor, on passe par, je crois, au minimum 4 relais différents, ce qui permet de rendre très, très, très difficile le fait de traquer votre identité. En plus, on est plus ou moins anonymisé à chaque étape. Et donc, mais un serveur, le serveur par lequel on entre, eh ben, il peut savoir qui on est. Le serveur par lequel on sort, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est peut-être pas impossible non plus. Bon, c'est plus difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert qu'il y a un acteur, sans doute un acteur d'État, qui a établi des centaines de serveurs Tor, connectés au réseau Tor, qui représentaient jusqu'à, je ne sais plus combien, 10% du réseau à un moment, et qui mettaient une probabilité qu'on passe par un serveur de cet utilisateur à 16% pour entrer dans le réseau, et 35% qu'on passe par un relais qui lui appartenait. Et on ne sait pas de qui il s'agit, mais donc c'est sans doute un État qui voulait espionner ce qui se passe sur le réseau Tor, et de là que bah, c'est entièrement décentralisé, n'importe qui peut créer des serveurs. Bon, ils en ont banni beaucoup, les gens qui administrent le réseau Tor, ils en ont banni beaucoup maintenant, mais il y avait donc une entité qui possiblement était en train d'essayer d'aspirer toutes les données possibles du réseau le plus sécurisé qui soit, le réseau Tor. Et puis l'autre chose que je voulais évoquer au niveau sécurité, c'est cette histoire de tribunal des cybercriminels. C'est sur un forum en particulier où il y a des échanges de données volées ou de choses de genre. Eh bien, ils avaient établi un tribunal ils ont établi un tribunal où on peut en fait donner ses griefs et puis dire telle personne, avec en l'identifiant, telle personne m'a vendu des données qui avaient déjà été vendues à quelqu'un d'autre, donc elles sont inutilisables.
Oh, c'est moche.
C'est terrible. Hein.
No, et, comme diraient les anglo-saxons, there's no honor among thieves.
Exactement.
Mais ça, là, tu ne fais que transposer des trucs qui existaient dans le monde réel. Je veux dire, je ne sais pas, va revoir les affranchis, tu vois.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Quand problème, les... on se rassemblait, on allait voir Paulie, et puis Paulie, il ramenait la paix, quitte à sortir le bâton. Mais voilà, ils mettaient tout le monde d'accord.
C'est ça. Mais c'est marrant de voir que ça existe dans le dark web, qui est quand même le plus grand. Et d'ailleurs, ils ont senti le vent tourner parce qu'ils ont, ils ont déclaré il y a quelque temps qu'ils ne couvriraient plus les problèmes de ransomware. Ils se sont rendus compte que ça commençait à sentir vraiment pas bon et que les États commençaient à s'en occuper. Ils ont dit « Ah, ransomware, on fait plus, vous démerdez, on ne veut plus en entendre parler. » J'ai trouvé ça drôle. Mais entre Tor, qui était vraiment intéressant, bon, bah, maintenant ça a l'air d'être un petit peu plus sécurisé, mais entre Tor et le tribunal du Dark Web, j'ai trouvé que c'était des sujets rigolos. Et puis, dernier sujet avant d'aller manger un morceau. Dernier sujet. Le CSA, enfin l'ARCOM, a lancé des injonctions contre les sites les sites porno qu'on peut accéder depuis la France, donc en gros plusieurs sites porno, qu'ils exigent qu'ils fassent un contrôle de l'âge plus efficace que le déclaratif qui est aujourd'hui. C'est en relation avec une loi qui est passée il y a plusieurs mois déjà, si je ne m'abuse. Et si jamais les sites en question ne contrôlent pas l'âge des utilisateurs bientôt, eh ben, ils pourraient se retrouver bloqués au niveau des opérateurs. Mais le plus intéressant là-dedans, j'ai lu la news et je me suis dit, mais attendez, on n'avait pas de... Si je me souviens bien, on n'avait pas de détails sur la manière dont les sites devaient contrôler l'âge. Et donc, je suis allé regarder. Et bien, toujours pas. Donc,
Oui, tu devras abattre le plus haut chêne de la forêt avec ce hareng. Tu vois, c'est l'analogie signe qu'on est vraiment dans les soucis. C'est vrai que la loi dit qu'il faudra que les sites puissent vérifier. Mais alors, comment vérifier sans taper vraiment dans des données très personnelles,
sans demander des pièces d'identité, on ne sait pas.
Exactement.
Et on sait pas.
Bah c'est tout le problème. Et en fait, quand on interroge les personnes qui, par exemple, étaient derrière la loi ou même, personne derrière la loi ou le CSA, la réponse, c'est pas à nous d'apporter la réponse comment faire. La loi, c'est la loi, c'est à eux de la respecter. on fait comment techniquement? Sachant que la CNIL, est quand même là pour surveiller que tout se passe bien. Et elle a déjà remis un avis en juin pour dire, alors attention, on pourra pas accepter tout et n'importe quoi parce que il y a la protection des données personnelles, et que par exemple, les sites porno pourraient dire « on va demander la présentation d'une pièce d'identité ». Pourquoi pas? Après tout, c'est pareil pour les sites de poker, les sites de paris en ligne, etc. Il faut une pièce d'identité plus un RIB. Mais la question, c'est oui, mais la CNIL dit « ouais, enfin, est-ce qu'on a vraiment envie que des pièces d'identité, enfin des documents aussi sensibles se retrouvent entre les mains de ces sites, sachant que, il y a la possibilité qu'il y ait de l'usurpation d'identité. Deux, imaginez qu'il y ait la base de données de toutes les pièces d'identité et à côté la base de données des utilisateurs, qu'on arrive à croiser tout ça et qu'on puisse deviner quelles sont les préférences sexuelles de telle ou telle personne publique en fonction de ce qu'elle regarde sur YouPorn. Donc il y a cette question-là. Ensuite, il y a certains.
Ça, tu touches aux mineurs, enfin, tout à coup, là, ça devient oulala. Tu crées beaucoup plus de problèmes que tu n'en règles.
Et tu avais aussi une autre proposition d'un site qui était nous, on va demander aux gens d'envoyer un selfie. Comme ça, on pourra voir s'ils sont majeurs ou mineurs. Le problème, c'est que, pareil, en fait, envoyer un selfie, c'est une donnée biométrique, c'est une donnée personnelle. Donc, c'est pas possible, sachant que la CNIL dit, en fait, on peut pas dire que le consentement est libre et éclairé, étant donné qu'il faut absolument envoyer une photo pour accéder au site. Donc, c'est un consentement contraint. Et même, en fait, les outils d'analyse automatique des visages ont quand même des taux d'erreur assez importants. Donc, ils ne pourront pas faire, par exemple, la différence entre un ado de 16 ans et un de 18 parce que on ne change pas non plus fondamentalement. Enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens qui la puberté est beaucoup plus rapide que d'autres. Donc, c'est très compliqué. Là, pour le moment, en fait, le seul moyen que je vois qui pourrait à peu près passer, même s'il a plein de défauts, bah, en fait, c'est le paiement par carte bancaire. Donc, c'est de dire, bah, on va mettre une transaction à 0 euros pour vérifier que la personne derrière l'écran possède une carte bancaire et donc possède un compte en banque. Et donc, a priori, alors en France, on peut avoir une carte bancaire à partir de 16 ans. Donc, ça, c'est le premier oui. obstacle. Et le deuxième, c'est que, bah, en fait, rien n'empêche un gamin d'aller subtiliser la carte bleue de papa ou maman dans le sac pendant la nuit. Et puis, boum, boum, d'utiliser les codes de papa et de maman pour faire croire qu'il est majeur. Donc, ça aussi, c'est un autre problème.
Bon, et ça, après, il y a toujours des moyens de contourner. Mais au moins, si la chose est en place. Et puis ensuite, tu sais, ça peut fournir une bonne excuse à tous les parents qui traînent sur des sites porno et qui se font ensuite outer. C'est genre, mais pas du tout. Mais enfin, c'est mon fils de 13 ans qui l'a certainement fait, qui a dû me voler ma carte bleue. Certainement. Oui. Mais bon.
En tout cas, ouais, les cinq sites en question se retrouvent avec une injonction, donc 10 et 15 jours de mettre en place des manières de vérifier que les utilisateurs sont majeurs, sauf que voilà, on ne sait pas comment. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 15 jours s'ils ne changent rien, ce qui est quand même le cas le plus plausible, probable, bah c'est en fait à partir de ces 15 jours, le CSA peut saisir le tribunal judiciaire de Paris, et le tribunal judiciaire de Paris décidera ou non s'il convient de demander aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès à ces sites en France.
Et donc, en gros, de même... bloquer juste par le DNS, qui est un truc au travers duquel tous les mômes de 13 ans savent déjà passer.
Hein. C'est ça, oui.
Et bien sûr, puis bon, il y aura des sites miroirs, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal d'étapes avant qu'on arrive au blocage, parce que le juge peut très bien dire, bah, en fait, non. soit parce que la loi est pour le moment est mal conçue ou en fait il n'y a pas de solution technique donc on peut pas appliquer, la loi n'est pas applicable donc
moi ce qui m'a surpris au final c'est que le CSA qui est censé faire appliquer la loi donc c'est pas son rôle de dire non la loi est mal foutue mais ça m'a surpris parce que la loi a effectivement été est passée il y a un moment. Et je pensais que bon, tout le monde l'avait mise au placard et que personne, tout le monde essayait de ne pas trop y penser parce que.
Mais non,
le CSA est revenu dessus. Quoi.
Mais non, parce que en fait,
la loi, c'est la loi.
La loi, déjà, elle a été passée il y a un an et demi, mais le problème, c'est que les décrets d'application, ils sont arrivés beaucoup plus tard.
Oui, mais ça fait quand même un moment.
Mais non, mais les décrets d'application, ils sont arrivés qu'il y a genre deux ou trois mois.
Et le législateur a poussé du pied en disant, mais vous inquiétez pas, les moyens, ils seront dans le décret d'application, sauf qu'ils n'y sont pas. Donc, voilà.
Et puis surtout, le CSA a été saisi par des associations de défense des enfants. Et à partir du moment où il est saisi, il est obligé d'agir. Bien sûr. Donc, il a suivi le textbook de la loi en disant, bon, on est saisi, on doit agir, on doit faire des constats d'huissier, on doit demander au site en question d'envoyer leurs observations, ce qu'ils ont tous fait. Constat d'huissier comme que rien ne change, on envoie des mises en demeure. En fait, le CSA ne fait qu'appliquer la loi.
Et voilà. Et donc, tu peux aller chercher ton hareng.
Exactement.
C'est
sur cette conclusion qu'on va du coup conclure l'épisode. Merci à tous les deux d'avoir été là avec moi pour me tenir compagnie. C'était un moment précieux que j'ai reçu de votre part. Est-ce que avant de se quitter, vous pouvez me dire où on peut vous retrouver pour le coup, je vais demander à Chloé en premier. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Alors, sur Internet, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @w_chloé, et surtout sur le site du Figaro et dans le Figaro papier, dans les pages tech et médias.
Magnifique. Merci, Chloé. Et toi, Cédric, où es-tu, dis-moi?
@Cédric sur Twitter, et les doigts dans la prise, dont de nouvel épisode arrive. Je le promets à chaque fois, mais je crois que cette fois, c'est pour de vrai.
Il arrive. Super, les doigts dans la prise. Un grand merci à toi aussi. Pour ma part, c'est NotePatrick sur notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, que ce soit le live sur Twitch, tous les mardis midi et le jeudi midi pour le rendez-vous jeu, le Discord où on discute entre amis, vraiment, dans une ambiance sympathique et accueillante. Vous avez aussi le Patreon, patreon.com/rdvtech, mais vous avez aussi le lien sur notepatrick.com avec tout le reste. Et si vous avez un tout petit peu trop de café dans votre vie, si vous en êtes à 5 par jour et que vous dites 5 par jour x 5 parce qu'on n'envoie que les jours de travail et donc ça fait 25, bon, faut être raisonnable, faut passer à 24 et le café qui reste, on va envoyer l'équivalent à Patrick sur patreon.com/rdvtech. Le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. Merci à vous tous, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.